Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Sortez sur Radio Campus. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau Agathe Place et Gilles Cadet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour. Oh, Nico, génial.
Trop bien ça. Alors, vous êtes venu nous présenter la boîte noire en quelque sorte, parce que Gilles aussi, vous êtes peintre à part entière et artiste. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer avec quelques mots, Agathe, qu'est-ce que la boîte noire ?
Alors, la boîte noire, c'est un espace d'exposition tourangeau. Ça fait maintenant 7 ans, presque 8, qu'on est dans le centre de Tours, donc dans le cœur du quartier des Arts, c'est-à-dire dans la rue du Grand Marché, donc l'espace du Vieux Tours. Et on s'est installé en septembre 2012. Et voilà, avec des artistes permanents, des expositions qui tournent tous les mois, soit un artiste seul, soit en binôme, soit des expos collectifs comme les petits formats érotiques en décembre ou les petits formats de janvier. Et puis là, on a débuté l'année, donc février, avec cette exposition qui s'appelle « De l'âme à la matière » et qui réunit Gilles Cadet et Marie Marchand.
Très bien. Donc du coup, ce lieu, vous avez dit que ça fait quoi, 8 ans vous avez
Presque dit 8 ans.
Presque 8, que c'est à Tours, rue du Grand Marché. Mais est-ce que du coup, avant, ça existait avant?
Alors non, la boîte noire n'existait pas avant. Moi, j'avais une autre galerie qui s'appelait l'Espace 213, qui était boulevard Thiers.
Très bien. Et comment fonctionne un petit peu ce lieu? Comment se fait la rencontre avec les artistes qui viennent?
Alors c'est toujours, enfin maintenant je commence à avoir un réseau d'artistes, oui. Et les artistes commencent à connaître le lieu, donc viennent me voir et me demandent conseils, me demandent s'ils peuvent exposer éventuellement. Je reçois aussi beaucoup de mails, je me déplace dans les salons pour rencontrer des artistes qui m'intéressent ou même des nouveaux artistes. Et sinon, voilà, ça se fait. C'est vrai que c'est un métier où il y a des rencontres. C'est assez magique. On ne sait pas pourquoi. Comme c'est vraiment un métier où on voit beaucoup de monde, où ça brasse beaucoup de monde. Du coup, c'est vrai que il y a des choses qui vont de soi. Il y a des rencontres qui sont évidentes. Et ça, c'est intéressant.
Oui, il y a des coups de cœur comme vous mettez sur le site aussi.
Ouais, complètement. Mais je peux pas avoir un coup de cœur artistique s'il n'est pas humain avant.
Oui, bien
sûr. C'est pas possible. D'accord.
Donc du coup, il n'y a peut-être pas tant une ligne directrice stylistique que vous avez.
Si, il y a forcément une ligne directrice, vu que c'est que je choisis en fonction de mes tripes et de ce que je ressens. Donc il y a forcément quelque chose qui est relié à tout ça. Mais c'est vrai que ça peut aller d'un Sébastien Tomaso qui a un art assez punk, qui est assez cru, à une Simsa où voilà, c'est des jolies petites demoiselles avec des robes qui virevoltent, toutes pleines de couleurs. Donc c'est vrai que voilà, le panel est assez large, mais je pense qu'il y a quand même une ligne de conduite, enfin, malgré tout.
Est-ce qu'on pourrait le décrire, ce lieu, la boîte noire, comme un lieu de création contemporaine? Ça se dit ça ou pas?
Ça se dit, oui.
Et qu'est-ce qui se cache, Gilles, d'ailleurs, si vous voulez aussi parler avec nous de ça? Qu'est-ce qui se cache derrière contemporain comme ça?
Aujourd'hui.
Oui, c'est juste aujourd'hui.
Voilà, bien sûr, oui, contemporain, c'est aujourd'hui. Point barre, c'est pas plus ni moins, c'est une question d'époque.
Très bien, ok. Donc, c'est pas vraiment un style, c'est le fait que quelqu'un crée à notre époque.
Voilà.
Ok. Et les artistes, ils sont plutôt de la région, enfin, locaux ou...
Alors, au début, j'ai vraiment voulu mettre en valeur les artistes de la région, parce qu'on a quand même un vivier dans la région qui est vraiment riche et très intéressant. Et puis, petit à petit, dans mes artistes permanents, il y a maintenant, je pense, 50% d'artistes tourangeaux et 50% d'artistes qui viennent d'ailleurs. Parce qu'ils sont bien aussi, ceux qui viennent d'ailleurs.
Oui.
Et voilà. Quand même, dans la majorité, j'essaye de rendre hommage aux artistes de la région, le plus possible.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça dans votre... C'est peut-être personnel, je ne sais pas si vous voulez répondre à ça, mais pourquoi est-ce que vous avez eu envie de créer ce lieu?
Parce que déjà, j'ai toujours voulu faire ça, enfin même enfant, je voulais une filière artistique, quoi qu'il arrive. Après, j'ai su vite que je voulais plus en parler et l'étudier que la faire, que créer. Et puis après, ça a été pour moi de soi. C'était soit ça, soit j'écrivais, soit... Mais c'était de toute façon une filière vers l'art, Donc ça a été assez simple de me dire, bah, c'est ça que je veux faire.
Il y a pas de, on fait pas d'études, enfin on le devient un peu.
Si j'ai quand même bac si. plus 5 un peu.
Ah, il y a des études pour faire.
Non, il y a pas des études pour ça, mais j'ai fait des études d'histoire de l'art.
Histoire de l'art. Ouais.
Eh bien, je pense que voici venu le temps d'une courte pause musicale.
Et je peux vous proposer, qu'est-ce que je propose ? Eh ben, je vais vous proposer Jungle avec Casio.
Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'm cynical, alright, let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's not original. Cynical, alright, let's go now.
De retour dans votre émission. Sortez toujours en compagnie d'Agathe et de Gilles. Agathe, est-ce que vous pourriez désormais nous parler un petit peu de vos artistes permanents, leur style, leur patte artistique ?
Alors, les artistes permanents, c'est au fil des années, c'est des artistes avec lesquels je travaille depuis très longtemps, en qui j'ai confiance et qui je suis leur travail depuis longtemps parce que c'est un travail qui m'intéresse et je trouve qu'il y a un travail qui évolue vite et bien. Et c'est devenu aujourd'hui presque une famille pour moi, les artistes permanents. C'est plus que ça encore. Et voilà, c'est des gens qui m'ont jamais lâché, qui ont toujours cru en moi. J'ai toujours cru en eux aussi. Donc après, est-ce qu'ils ont, comme vous disiez tout à l'heure, une ligne artistique identique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les miens, c'est voilà, les miens avec un grand M et pas... Voilà. Donc il y a Michel Audiard, il y a Éric Geffroy, il y a Laurent Bourreau, il y a Lamiel Penaud, il y a Léo, il y a Anna Robotchek, il y a Magali Boucher, il y a Simsa, il y a... Oh, j'en oublie, c'est terrible. C'est bon, hein,
je cherche.
Ah oui, Fabrice, mon Dieu, quelle horreur. Mmh. Fabrice Mété, voilà. Et c'est bon.
Ok, et donc du coup, là, il y a de la sculpture, de la peinture.
Alors, il y a Éric Geffroy qui fait ce qu'on peut appeler de la sculpture, mais c'est surtout un assemblage. Il assemble pour la plupart du temps des lampes, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il faut vraiment.
C'est très poétique.
Ouais, c'est très, très poétique ce qu'il fait. Il faut vraiment aller voir sur son site, c'est très intéressant. Après, il y a Michel Audiard qui est aussi sculpteur pour cette partie-là. Et puis après, ce ne sont que des dessinateurs et des peintres. Et Lamiel Penaud qui fait de la photographie.
Est-ce qu'il y a quelque chose un accompagnement en quelque sorte pour ces artistes permanents que la galerie met en place? Est-ce que c'est aussi un lieu où on va pouvoir se créer un réseau ou aider
Oui, c'est pas que les artistes permanents de la galerie. C'est-à-dire que toute l'année, on travaille en collaboration, c'est-à-dire que si la galerie est appelée pour une exposition extérieure ou un événement ou autre chose, les artistes permanents me suivent tout le temps. C'est une priorité. Je peux aussi les faire rentrer dans d'autres galeries, les faire rentrer dans des salons. On travaille vraiment ensemble. À part Michel Audiard qui n'a pas besoin de moi, parce qu'il il tourne tout seul, mais sinon, oui.
D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait ne pas être exposé à la boîte noire?
Un artiste qui n'est pas gentil.
Oui, que le côté humain ne vous plaise pas.
C'est
en quelque sorte.
Ouais.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des événements? J'ai vu que vous en aviez qui reviennent chaque année.
Oui, les petits formats érotiques, voilà. Et les petits formats de janvier. Alors, oui. Les petits formats érotiques, ça fait 11 ans que ça existe, que je l'ai mis en place. Et c'est un rendez-vous qui est un peu attendu. Maintenant, c'est vraiment rigolo, les Tourangeaux en parlent. Il y en a même qui connaissent pas, enfin, qui viennent à la galerie qu'une fois par an pour les petits formats érotiques. Le reste du temps, ils n'en ont rien à faire de la boîte noire. Mais par contre, les petits formats érotiques, ils viennent parce qu'ils trouvent ça drôle, ils trouvent ça décalé par rapport au moment de Noël, où c'est vraiment la fête des enfants, où voilà, c'est les illuminations dans la rue avec le Père Noël et puis les Schtroumpfs. Et nous, c'est l'érotisme. Donc, c'est vraiment un rendez-vous qui est attendu. Et plus les années passent, plus forcément c'est attendu et c'est drôle.
Et l'autre?
Les petits formats de janvier, alors ça c'est moins drôle, hein, c'est des petits formats, point barre, c'est beaucoup, voilà. Mais voilà, c'est attendu aussi, c'est une exposition collective d'artistes qui sont de la région, mais pas que, et voilà, c'est toujours, ça fait un peu, c'est un clin d'œil au solde de janvier, où chez nous, on a des petits formats, donc c'est des petits prix, et pour un prix modique, on peut avoir une œuvre originale et signée, et c'est vraiment le clin d'œil au solde.
Comment vous aimeriez faire évoluer ce lieu? Est-ce que vous avez des idées en plus pour la suite?
Oui, j'aimerais ouvrir une boîte noire à New York. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà que ça perdure, franchement.
Oui, complètement.
Parce qu'aujourd'hui, les galeries d'art ou les espaces d'exposition, ce n'est pas évident. Mais comme on est... je pense qu'on a la même position que les autres. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas évident de perdurer parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, parce que on a un gouvernement qui est très controversé, donc on ne sait pas. Et rien que le fait que je puisse continuer à durer quelques années, déjà ça me ferait plaisir.
Dernière question, peut-être avant de passer à Gilles Cadet aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dernièrement, vous avez...
Ah, c'est une bonne question, ça.
Ah, moi, j'avais peur de la poser.
Non, mais je vais peut-être mettre une bonne demi-heure à répondre, par contre, parce que je vais...
Oui, c'est dur. Hein, de...
Ben oui, parce que il y a quand même plein de choses qui me touchent, heureusement. Je pense quand même que c'est le travail de Lara Blanchard que j'ai exposé au petit format de janvier, qui est une toute jeune femme qui brode et qui fait donc des œuvres d'art. Ça revient à la mode, je trouve, cet art du fil et de la laine, alors que moi, je suis nulle à ça. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'admire beaucoup. Et donc, elle dessine sur du tissu et les parties colorées sont brodées. Et je trouve ça d'une poésie, mais d'une... C'est tellement beau que voilà, ça a été un des coups de cœur que j'ai eu.
Oui, c'est ça l'art. Est-ce que vous avez une façon d'apprécier une œuvre? Enfin, c'est vraiment, vous ressentez une émotion, mais il n'y a pas en fait un but à l'intérieur d'une œuvre en quelque sorte. Des fois, il n'y a pas de message qui veut être véhiculé, c'est juste en fait un ressenti.
Oui, il n'y a pas forcément un message pas possible qui est caché derrière. C'est juste du beau, c'est juste une émotion qui est ressentie, c'est juste une palpitation de plus au cœur, c'est voilà, ça suffit.
Oui, parce que des fois sous le nom aussi contemporain, on peut aussi associer des espèces de nouvelles façons en fait de créer.
C'est dans les livres d'art, voilà, ouais. C'est vraiment au tout début où on disait voilà l'art contemporain c'est quoi. C'était vraiment au début du XXe siècle où ça partait dans tous les sens parce qu'il fallait faire un truc complètement en opposition à la Renaissance ou voilà. Mais aujourd'hui l'art contemporain ça reste juste l'art d'aujourd'hui. C'est pas un art qui c'est pas parce que tu vas balancer ta savate que c'est de l'art contemporain. Voilà, c'est juste des gens qui créent au jour d'aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve après une pause musicale.
Et du coup, on va écouter Bon Entendeur avec Entrevue Sélection featuring Pierre Ninet.
Je crois, maintenant j'ai presque 30 ans, que jamais je revivrai des sensations aussi fortes de séduction, d'amour absolu que quand j'étais adolescent. Je sais pas, et maintenant je commence à avoir la nostalgie des yeux un peu. La puissance quoi de ce désir-là, c'est. Je sais pas si je suis nostalgique, mais je crois que ça aura plus jamais cette intensité-là, quoi. Bonjour, c'est Pierre Ninet. Vous écoutez Bon Entendeur. Avec le public, un rapport pas franchement frontalement de séduction, mais ça fait quand même partie de ce métier. Moi, les acteurs que j'aime, c'est des acteurs qui me séduisent dans les films, acteurs ou actrices évidemment. Il y a un charme qui opère, quoi. Quand t'es réalisateur, t'as besoin de tomber amoureux de tes acteurs. Quand t'es acteur, t'as besoin de tomber amoureux de ton personnage. Je pense que entre l'acteur et son public, le public et l'acteur, il y a une forme de séduction. C'est Pierre Ninet. Vous écoutez Bon Entendeur.
ça y est, il est tout détendu.
Eh bien, de retour dans Sortez, je me tourne dorénavant vers Gilles Cadet. Car d'ailleurs, Gilles, comment s'est faite la rencontre avec la boîte noire?
Ah, alors ça, c'est une grande histoire.
Ah.
En fait, la boîte noire, je passais devant depuis très longtemps, quoi. Et je faisais déjà de la peinture, mais pas, à mon avis, pas diffusable, enfin, selon moi. Et la galerie La Boîte Noire, pour moi, ça représentait quelque chose de grandiose. Une galerie, c'est... Quand j'étais petite, mon papa, il me disait, ben non, on rentre pas dans ces endroits-là. Enfin, j'ai pas eu la culture du fait de rentrer dans les galeries. Les musées, oui, mais les galeries, c'était des mondes à part. Du coup, ben, je passais devant, je repassais devant. Je voyais bien qu'il y avait du monde qui rentrait, qui sortait. J'avais beau me dire, ben vas-y. Alors, je suis rentrée quelques fois. Regarde, t'as toujours fait un grand sourire. Je me suis toujours sentie bien, sauf que ça a toujours représenté quelque chose d'assez... inaccessible. Mmh. Et en fait, comme je peins dans la rue, j'ai commencé à poser des... Alors, quand j'ai commencé à... Ça, c'était même des petits collages. J'ai commencé à poser sur les volets de la boîte noire, histoire de ouais, quelque part, même si c'était pas complètement anodin, c'était pour attirer l'attention, sans doute. Hein. Maintenant, je l'analyse comme ça. Au début, je me disais, oh, ça va être chouette d'être là quand même. Mais en fait, je pense que c'était aussi pour attirer l'attention. Donc, j'avais mis des petits collages dans le coin, et puis j'ai commencé à peindre dans la rue. Et puis un jour, ben, je pense que j'ai... franchis le pas un peu, me suis sentie peut-être plus sûre de moi et puis je suis rentrée et puis je ne sais plus ce qui s'est passé en fait, mais ça s'est passé et ça a matché et voilà, et j'ai trouvé que elle était géniale et que je me suis sentie à l'aise. Et donc du coup, le jour où elle m'a proposé d'exposer pour la première fois chez elle, et ben j'ai dit ok. Pourtant j'étais j'ai mal dormi les nuits d'avant, hein, c'était moi, c'était impressionnant. Ouais, ouais, ouais.
Bien joué. En tout cas, c'est pas très commun le fait de mettre sur les volets comme ça.
Il y en avait même une qui était en face. Oui. Donc c'est-à-dire que tous les matins, j'ouvrais mes volets et pim, je tombais dessus. J'ai bon, bah d'accord, ok. Mmh. Je la vois encore. Hein. Donc au final, ça a marché.
Mais oui, complètement. Alors, vous peignez depuis combien de temps?
Alors, je peins depuis une douzaine d'années. À peu près. Et puis, longtemps, j'ai peint pour moi, chez moi, pour ma maison, pour m'exprimer, parce que j'avais envie, enfin, voilà. Et puis, un jour, une copine est passée en disant, moi, j'aime bien ce que tu fais. Et puis, j'ai un salon de coiffure et j'ai envie de t'exposer. Alors, ça a démarré comme ça, donc il y a, une petite dizaine d'années. Et puis j'ai commencé à créer des toiles pour exposer dans le salon de coiffure. Et puis ça s'est très bien passé. Et ça m'a donné confiance. Du coup, j'ai commencé à continuer. Ce salon de coiffure a débouché sur autre chose. Et puis ainsi de suite, ça s'est fait comme ça. Et en parallèle, en fait, moi, je pense que c'est ce qui m'a porté, en fait. C'est qu'en parallèle, j'avais commencé à poser des petites nanas dans les rues de Tours. Hein. Et de façon comme ça, tout à fait. En fait, j'avais envie d'emmener les gens sur quelque chose d'un petit peu coloré, d'un petit peu une petite parenthèse dans leur quotidien. Alors, j'avais pas envie de faire un grand mur, j'avais envie de poser une petite nana à droite, à gauche. Alors, des fois, au début, je pense que les premières, elles faisaient un mètre, quoi, pas à tout casser. Et puis, en fait, les réseaux sociaux, pour ça, c'est assez fabuleux. De loin. J'ai commencé à voir sur les réseaux que mes petites nanas, elles étaient prises en photo, que les gens en parlaient, qu'ils commençaient à s'échanger des photos. Puis ça a pris, mais même moi, j'en étais complètement, je savais pas ce qui se passait. Il y a un moment, il y a eu une carte interactive sur Facebook où les gens postaient les photos. Alors moi, je les ai appelées très vite les filles du vent, parce qu'en fait, les filles du vent, je les posais vite. Comme un coup de vent, mais elles étaient aussi effacées vite, voilà. Donc du coup, c'était les filles du vent, principalement des petites japonaises, des petites geishas, voilà, parce que pour moi, ça représentait la féminité, ça représentait la pudeur, mais à la fois une affirmation féminine. Je les faisais très colorées. En fait, le but, c'était vraiment, quand j'ai posé les premières, de me dire, je vais emmener les gens vers un petit parcours comme ça, juste pour leur faire du bien. Et en fait, ça. La mayonnaise a pris bien plus. Enfin, moi, je me suis même trouvée un peu pas dépassée, mais ça m'a surpris que ça fonctionne comme ça. Et en fait, longtemps, j'étais anonyme, c'est-à-dire que je voyais bien une publication, les gens cherchaient plus ou moins à savoir qui c'était. Bon, moi j'étais pas connue, je faisais mon petit truc dans mon coin, alors c'était assez excitant en plus, hein, d'aller les poser déjà, sans me faire repérer, de voir après comment ça marchait, de voir que finalement bah, les photos étaient partagées, enfin ouais, c'était, pour moi c'était... Mmh. Et puis bah, un jour on a su qui j'étais, et puis c'était bien. Enfin, finalement, c'était bien. Alors, aussi.
Du coup, ça vous a apporté quoi de savoir qui
Au début, franchement, ça m'a un peu ennuyée parce que j'aimais bien être spectatrice comme ça, de loin, de passer devant. En fait, mon jeu, c'était de me retrouver dans certains lieux où j'avais peint et de voir les gens qui s'arrêtaient, qui prenaient une photo, qui discutaient devant. Enfin, je sentais bien que ça faisait du bien, enfin, que c'était... C'était bien perçu parce que dans Tours, il n'y avait pas beaucoup de dessins en fait. Après que je sois connue, ben, j'ai pas été connue comme ça tout de suite. Hein, en fait, les gens ont commencé à dire ah bah tiens c'est elle, mais ça a été tout doucement. Et puis pour moi, je sais pas si ça a changé quelque chose. Non. Mmh. Si ça a changé qu'on m'a arrêtée dans le Leclerc en disant oh c'est vous, j'ai trouvé ça. Ça fabuleux.
Ce qu'il faut savoir, si je peux intervenir, c'est contrairement aux autres artistes de rue qui ont la plupart du temps un message politique ou social qui revendique vraiment quelque chose, Gilles revendiquait juste une petite part de bonheur par-ci, par-là, qu'on pouvait cueillir à droite, à gauche des endroits où elle avait posé, comme elle dit, ses filles du vent dans la rue. Et c'était la seule chose qu'elle revendiquait, en fait, c'était juste une petite partie de bonheur. Si je peux vous apporter ça, ça me suffit. Parce que voilà, elle a été aussi un peu décriée en disant que c'était pas une artiste de rue comme les autres, parce qu'elle avait rien à revendiquer. Mais voilà, on peut aussi revendiquer juste une petite partie de bonheur et ça suffit, je pense.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément un message à passer, il y a juste voilà, l'instant T. Voilà, l'instant T, ça compte beaucoup.
Et sinon, vous avez aussi un autre support qui est la toile.
Alors, je travaille très peu sur la toile. D'accord. Non, quasiment pas. Là, dans l'exposition présentée à la boîte noire, c'est un travail très très différent, puisque j'ai travaillé avec des morceaux de bois. Donc le bois, c'est une matière qui m'intéresse beaucoup, parce que d'abord, ses aspérités, la matière, c'est une matière chaude, c'est une matière vivante. Le bois me plaît beaucoup, je pense que j'aurais pu être menuisier, ça m'aurait plu. Et puis là, en fait, c'était une recherche un petit peu différente, c'est-à-dire que les filles du vent, elles existent toujours, mais en parallèle, ben voilà, je peins sur des supports, souvent des supports de récupération. Et puis un jour, une jeune fille est venue me voir en disant voilà, si je vous raconte mon histoire, est-ce que vous pouvez en faire un tableau? Et en fait, ça a démarré de là, c'est-à-dire que j'ai commencé par lui répondre ben non, moi je fais pas de portrait sur commande, c'est pas mon truc. Elle m'a dit non, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dans la vie. Et puis voilà, j'aimerais que vous, avec votre perception, la façon dont vous voulez, vous exprimiez ce que je vais vous raconter. Et donc, du coup, j'ai reçu son histoire. Et puis, quand je dis reçu, c'est reçu, parce que les histoires que, après, ça s'est un peu développé, j'ai reçu vraiment les histoires. C'est-à-dire que les gens se sont livrés et m'ont raconté leur histoire. Et puis, après, une fois que j'avais ça, ben, je me suis dit, comment je vais pouvoir matérialiser tous ces sentiments, tout ce qu'elle m'a exprimé, et puis en fait des fragments de bois découpés en fonction de moi, ce que je pouvais y mettre aussi, et bien ça m'a semblé la meilleure façon de représenter l'histoire de cette personne. Et donc du coup j'ai commencé à assembler des bouts de bois, les poncer, les laver, les coller, les disposer, les redécouper, choisir une planche plutôt abîmée plutôt qu'une planche lisse, voilà, en fonction du parcours de cette personne. Et puis, et puis j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé que ça me poussait aussi, moi, dans certains retranchements, en fait. Ça me poussait à m'interroger plus. C'était un petit peu moins léger, même si, voilà, c'est pas un changement, c'est un travail en parallèle. Et puis, du coup, ben, je me suis dit, banco, on va faire une série comme ça. Et puis, j'ai mis une petite annonce sur Facebook. Et puis, je l'ai enlevée au bout de 2 heures parce que y avait tellement, tellement de gens qui répondaient en disant, moi, enfin, de femmes, puisque, en fait, moi, je peins des femmes et je veux des histoires de femmes. Moi. Donc, du coup, ben, j'ai sélectionné et puis j'ai composé cette série qui est actuellement à la boîte noire. Voilà.
Et donc la femme, quelque part, prend une grande part de votre création artistique ?
Oui, complètement. En fait, d'abord parce que c'est un domaine que je connais bien, puisque moi-même étant femme, c'est plus facile. Et puis, sans être féministe, je défends certaines valeurs féminines. Et puis, je défends aussi le droit à la sensualité, le droit à être qui on est. Sans que ce soit, alors là, effectivement, on sait pas forcément des messages, etc. Mais mon dessin, je trouve que j'exprime beaucoup plus de choses en dessinant des femmes qu'en dessinant des hommes. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus de choses à dire. J'arrive à faire passer beaucoup plus d'émotions. J'aime le travail des regards, j'aime le travail des bouches. Et ça, bon, après, quand on est artiste, c'est aussi important de se faire plaisir. Hein. Et en fait, c'est ça qui me fait plaisir. Voilà. Okay. Donc c'est bien comme ça.
Et comment est-ce que vous avez réussi à vous imprégner l'émotion de quelqu'un d'autre pour après la mettre, en fait, l'imprégner sur une toile? Et c'est assez rigolo parce que c'est bien de l'âme à la matière enfin, créer une réalité de cette émotion.
Ouais, c'est ça. Je voulais que ça devienne palpable, les sentiments deviennent palpables. Et bien, en fait, moi je suis infirmière et je suis toujours infirmière. Je suis infirmière libérale et je pense que mon parcours, en fait, jusque-là, j'avais l'impression que la peinture, c'était presque un exutoire. Le métier d'infirmière, c'est pas un métier toujours facile. Et j'avais l'impression que jeter de la couleur comme ça, c'était. Et puis là, en fait, sur ce travail-là, eh bien, c'est presque comme un aboutissement. C'est clair, les deux métiers se sont imbriqués. C'est-à-dire que j'avais suffisamment d'empathie, mais suffisamment de recul pour pouvoir recevoir des histoires qui parfois ont été très difficiles à entendre, et sans être dans la juste dans l'empathie, mais sans être dans la compassion, sans être dans le larmoiement, je voulais pas de ça. Mais je pense que j'ai la formation pour avoir ce recul, pour pouvoir recevoir une histoire et puis la prendre pas froidement, puisque en fait il y a des histoires qui m'ont beaucoup touchée et il y a eu des moments où moi aussi j'étais un peu déstabilisée, mais je pense que ce métier d'infirmière m'a permis d'analyser, en fait, et d'analyser pour pouvoir en tirer le meilleur parti, pour pouvoir après la transformer et la faire devenir matière, justement. Voilà. C'est la première fois que je comprends, comment dire, que c'est presque une plénitude. C'est-à-dire que sur ce travail-là, je le ferai pas tout le temps parce qu'il m'a vraiment, c'était des fois dur, il m'a emmené loin, mais je trouvais que là, tout concordait, je savais pourquoi j'écoutais ces histoires, je savais ce que j'allais en faire, je me sentais à ma place. Ouais, c'est ça, voilà.
Et ces portraits de femmes, ils sont, quand bien même ils sont très réalistes dans l'émotion, ce n'est pas les vraies femmes peintes.
Hein, non, en fait, le but était, parce que quand j'ai proposé le travail, en fait, les femmes me racontaient leur histoire, il n'était pas question qu'elles soient identifiables. C'est-à-dire que l'histoire, bon, elle est écrite dans un coin. Quand le spectateur vient recevoir l'histoire, lui, il en tire aussi son propre jugement. C'est-à-dire qu'effectivement, je voulais pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse... le deal, c'était ça. Vous me racontez votre histoire, mais on vous reconnaîtra pas, bien sûr. Donc ce ne sont pas elles qui sont peintes, ce ne sont pas leurs prénoms que j'ai donnés au tableau. Mais je tenais aussi à donner un prénom parce que, malgré tout, il s'agit de quelqu'un. Enfin, l'histoire, elle est palpable. Voilà. Après, je pense que le spectateur qui passe et qui voit ça, en fait... lui aussi va après se dire, ah mais bon, enfin, c'est un peu ce que j'avais envie, mais moi, si je devais faire construire comme ça mon propre parcours, qu'est-ce que j'y mettrais comme matériau, peut-être un matériau, en fait, voilà, sans, je suis pas une artiste torturée, je suis loin des messages, etc., mais là, j'avais envie d'un petit peu d'introspection, c'est-à-dire que quand on voit une œuvre, quand on connaît l'histoire, qu'on puisse se dire, ben, et moi, j'en suis où de mon parcours, et j'y aurais mis quoi dans mon parcours, etc. Parce qu'il y a aussi eu des histoires très légères, hein, où les femmes sont venues me voir en disant, bah, je viens vous voir parce que je suis contente de vous rencontrer, mais moi, ma vie, elle va super bien. Bon, bah oui, mais on va en discuter aussi, et on y a mis des choses super bien aussi. Fin...
Oui, parce qu'un parcours n'est en aucun cas ni parfait, ni imparfait complètement. Alors,
tout à fait.
Comment on fait pour créer un peu une toile yin et yang aussi, comme ça?
Alors après, il y a tout moi aussi, il y a mon ressenti à moi. Après, je prétends pas que cette histoire que j'ai racontée, c'est moi qui l'ai racontée. Je prétends pas que ce soit que ce soit une vérité. C'est-à-dire que si jamais on avait transmis cette histoire ou si elle l'avait livrée à un autre artiste, peut-être qu'il aurait mis autre chose ou autrement. Donc, une œuvre, c'est toujours à la fois, bon là, c'est à la fois l'histoire d'une personne, mais aussi un petit peu de moi, quelque part. Donc on pourra jamais dire, c'est la vérité est là, en fait. Mais c'est ma vérité par rapport à une situation. Voilà.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette exposition ? Je rappelle qu'elle est donc du 7 février au 21 mars à la Boîte Noire. Non ? Ben, on peut peut-être parler un petit peu de vos autres projets. Est-ce que vous avez d'autres idées en ce moment ? Vous travaillez sur de nouvelles choses ?
Alors, on va revenir un peu plus léger parce que là, ces histoires, moi, elles m'ont emmené des fois un petit peu loin. Oui, j'ai des projets. Oui, il y aura d'autres expos. C'est en train de se mettre en place. Je ne veux pas trop en parler maintenant parce que chaque chose en son temps. Et puis, il y aura des nouvelles nanas dans les retours aussi, parce que les dessins sont faits et que j'ai bien l'intention d'aller en poser quelques-unes. Ça boue toujours, j'ai toujours envie, mais je n'ai pas toujours le temps. Mais sinon, voilà, c'est la suite. La suite, c'est les mois qui vont dire. Mmh. Voilà.
Eh bien, on fait une pause musicale et on reviendra un petit peu aussi sur les autres événements, pourquoi pas, de la Boîte Noire.
Pardon, je regardais ce qui se passait autour de moi en oubliant que j'existais aussi. Et du coup, on va écouter Daughter avec Youth Third Remix.
Thank you.
Et nous parlions à l'instant de l'exposition de l'âme à la matière, qui sera du coup exposée, enfin qui est en train d'exposer jusqu'au 21 mars à la Boîte Noire. Et nous avons, un peu omis, mais de dire que Marie Marchand, du coup, faisait partie de cette exposition.
Donc il y a Gilles Cadet, parce que comme elle est invitée, forcément on en parle. Mais il y a Marie Marchand, donc une sculptrice de Nantes. Et que j'ai connu via les réseaux sociaux, et ça aussi pour ça c'est super bien, parce que comme sont postées beaucoup de photos, bah c'est forcément sur photo qu'on peut choisir un artiste. Et donc elle fait un très joli travail de terre cuite, blanche ou brune, et c'est vraiment d'une pureté incroyable. Et ce sont des corps, alors souvent féminins, entrelacés, sortant de la pierre. Il y a énormément de mouvements et de poésie également. Ça va très très bien avec les œuvres de Gilles Cadet. Je trouve qu'il y a une force dans les deux. Il n'y en a pas une des deux qui annule l'autre. Et voilà, je trouve qu'il y a une belle harmonie. Et je tenais aussi à parler de Marie Marchand, qui est aussi une très jolie personne, évidemment.
Et quelle est qu'est-ce qui vous plaît comme différence entre la sculpture et la peinture ?
Alors, j'ai toujours aimé la sculpture, moi, parce qu'on peut toucher. Alors ça, c'est le côté un peu tactile, peu sensuel et un peu... on a tout de suite envie de toucher, même si c'est complètement... Enfin, c'est un truc qui est complètement nul. Enfin, je me vois mal arriver au Louvre en disant, oh, tiens, je vais toucher les sculptures. Mais ça donne très envie. On a tout de suite une attirance vers l'objet et vers les courbes, vers même la matière, que ce soit du marbre, de la pierre, c'est très sensuel, je trouve.
Et vous d'ailleurs, Gilles, vos techniques de peinture, dehors, dedans, je me demandais ça un petit peu, est-ce que ça change quelque chose ?
Alors oui, en fait je ne travaille pas du tout de la même façon quand je travaille sur un support chez moi ou quand je travaille dans la rue. Dans la rue j'ai pris l'habitude, pour aller vite, de travailler avec une technique de pochoir, c'est-à-dire que je crée mes dessins, je les découpe et puis je pars avec mes pochoirs et mes bombes aérosols. Donc en fait, quand je travaille sur du bois ou de la toile, je ne travaille pas tout à fait de la même façon. Enfin, je travaille plutôt avec... Je travaille avec un aérographe, avec des pastels, avec de l'acrylique. Voilà, les techniques sont différentes. La technique de la rue, je l'ai mise au point parce que quand j'ai commencé à vouloir poser sur tour, j'avais envie d'aller vite pour passer à travers les mailles du filet de la police. Donc la technique du pochoir permet de faire des choses tout de suite très abouties et en un temps record, quoi. Donc voilà, donc je découpe mes petits pochoirs et d'ailleurs, je suis en train d'en créer des nouveaux pour un prochain événement qui va se dérouler à Château-Renaud. En fait, la ville de Château-Renaud a décidé de dynamiser un petit peu la ville et puis de proposer à la population un partenariat, c'est-à-dire qu'ils ont créé des événements, ils m'ont demandé on a choisi des lieux, on a choisi pour l'instant 6 lieux, et en fait, je vais poser 6 nouvelles filles du vent que je suis en train de dessiner, de découper, de peaufiner, voilà. Pas que des filles du vent, on va faire un peu de paysage, on va essayer de mettre de la couleur, en fait, ils veulent beaucoup de couleurs, en espérant que les gens vont se les approprier, comme ça se passe à Tours, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges au moment où je vais poser en live. Le premier événement, c'est le 8 mars, le jour de la journée de la femme, ils voulaient marquer les choses, donc ça sera le 8 mars à 10h, un dimanche matin. Donc, ça sera la première qui sera posée. Et puis, il y a également un partenariat qui s'est créé avec le collège où j'ai appris aux enfants à fabriquer des pochoirs. Donc, on s'est déjà vu 2 fois. Et on a créé des pochoirs. Ils sont en train d'en fabriquer actuellement. On a fabriqué des petits tableaux. Et je vais peindre un mur principal du collège avec mes filles du vent et des pochoirs fabriqués en partenariat avec les enfants. Voilà. Mmh. Ça va être un chouette projet. Ça va être très, très chouette. Ouais. Super.
Pour finir, est-ce que, Agathe, vous pouvez nous rappeler un petit peu les informations pratiques ? Je pensais même si jamais des artistes ont entendu l'émission et qui voudraient vous contacter, en quelque sorte.
Pas que les artistes.
Hein, bien sûr, c'est vrai.
Si les gens veulent aussi voir l'expo, voilà. Donc la boîte noire est ouverte du mercredi au samedi, de 11h à 19h, sans interruption. Après, ça peut être aussi sur rendez-vous. Et avec le mail de la boîte noire, laboitenoire37@gmail.com. On a aussi un site www.laboitenoirebis.fr. Et, Et puis voilà, c'est 57 rue du Grand Marché à Tours. Ça, je pense que c'est intégré. Enfin, j'espère en tout cas. Et puis voilà, cette magnifique expo où vraiment les gens déjà commencent à en parler, même sur les réseaux. Voilà, commencent à dire j'y suis allée. Alors, moi, j'y suis pas encore allée. J'ai vu sur Instagram ce week-end une dame qui disait oh là là, moi j'ai pas eu le temps d'y aller. J'y vais mercredi dès la première heure. Je trouve ça marrant. Donc voilà, faut venir la voir. C'est jusqu'au 21 mars, mais il faut y aller dès maintenant parce qu'il y a déjà pas mal d'œuvres qui sont parties, parce qu'il y a des gens qui passent et qui sont pas forcément d'ici et qui décrochent l'œuvre, qui l'achètent, qui la décrochent et qui partent avec. Donc il faut se dépêcher si on veut voir l'ensemble de l'expo presque comme elle était au départ. Il faut vraiment se dépêcher.
Et ça fait quoi de voir son œuvre partir comme ça?
Ça va, ça y est. Maintenant, au début, c'était difficile.
Ah oui,
maintenant,
hein,
maintenant, j'ai. Voilà, ça fait partie du don. Ça fait partie de... Ouais. On travaille pas pour soi. On travaille pour créer des émotions. Donc, du coup, à partir du moment, au contraire, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire, quand ton œuvre part, ça veut dire que t'as suffisamment créé d'émotions sur la personne qui l'a reçue et qui est partie avec. Mmh. Donc, c'est assez fabuleux, c'est assez magique. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
Je récupère mon micro. Merci. Et du coup, on va partir tout de suite maintenant avec Aurel San et Note pour trop tard.
Ok. J'avais ton âge, y'a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y'a pas de stage. Pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques notes. T'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde, parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y'a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y'a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison, même quand t'as raison. S'il y a une chose que tu dois pas remettre en question, t'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu baiseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. Ensuite t'auras peur de t'investir. Tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros, tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok. T'empêcheras jamais les gens de parler. Et comme t'es chelou, y'a peut-être moyen que les gens veuillent te frapper. Tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre. Mais même musclé, ça fait toujours mal de prendre une droite. Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur. Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur. Connais ta hauteur, va pas te surclasser. Tu verras des fois, tu perdras contre des gars que tu trouvais nul à chier. Bien sûr, la vie est injuste. Si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge. Ne crois pas les insultes, y'a pas de race pour être un bâtard. Pour être un fils de pute, pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir. Y'a pas de sexualité pour être un enculé. Plus tu réagis, plus on dirait que tu te sens visé. Laisse glisser. Les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes. Mais les pires êtres humains sont des losers cruels. T'en prends jamais aux plus faibles. Garde les vannes dans un coin de ta tête. Ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch. L'école est un calvaire. Y'a pas grand chose à faire. Arrêter, c'est partir trop tôt dans une autre galère. Tâche ton sac à dos en l'air. T'auras le poids de la société sur les épaules. Un patron, ton père et ta mère. trois quarts des cours servent à rien. Mais les actrices de boule en soient témoins. Rien branler fait qu'éloigner la fin. Tu dis qu'on verra bien, tu fais le malin mais t'es fragile. Comme le dépistage tu regrettes à l'examen. L'école est un filtre qui rend tout très chiant. Comme les films en noir et blanc, le plus dur c'est de rentrer dedans. C'est plus dur quand t'appréhendes comme ta première fois. Je fais des métaphores sexuelles depuis tout à l'heure parce que tu penses qu'à ça. Dis-toi que les latinas sont les plus bonnes du monde, écoute en espagnol. Dis-toi qu'en chimie tu pourrais faire de la drogue. Arrête d'apprendre par cœur des trucs que t'as pas compris. Et en philo t'étais pas censé raconter ta vie. Ah oui, personne t'oblige à fumer de la weed. En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs. Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères. Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair. La partie que tu préfères, c'est partir en bande à Jardiland, voler du bambou et fabriquer un bang. T'as juste besoin d'une passion. Donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. À part traîner avec ta bande, surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant. Honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu partais 4 ans. Quoique, c'est important. Fais de la merde tant qu'il est encore temps. Pour pas qu'un jour tu te réveilles à 40 ans. Genre, putain, je vais crever, mais j'ai jamais kiffé. Ma famille m'empêche de vivre, je vais devoir les quitter. Pour sniffer en boîte de nuit, trouver des gamines à vampiriser. J'en vois plein. Donc petit terroriste, va t'éclater. Sors en soirée, même si j'avoue, tu vas te faire recaler. Tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après. De toute façon, t'allais pas baiser ce soir, si je dois te le rappeler. Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo. Rends-toi compte que tu sais pas boire, t'es mort trop tôt. Quand ça devient une fierté de te mettre des grandes doses, c'est que tu t'attaches à pas grand-chose. Arrête de flipper, si tu veux, va danser. La seule règle sur la piste, c'est fais pas des trucs que t'as jamais tenté. Si jamais tu t'endors en premier dans une soirée, se regarder dans la glace, c'est la base dès que tu viens de te lever. Au cas où, ça t'évitera de passer les repas de famille avec une bite dessinée sur la joue. C'est repas de famille où tu t'ennuies, où on parle très fort pour dire des choses très banales. Déjà on se parle et c'est pas mal. Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables. Désolé s'il n'y a pas que des experts à ta table. Tu bloques sur les défauts des autres et c'est ton pire défaut. La vie c'est des cycles, c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots. Sois pas parano sur qui sont tes vrais amis. Y'a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. J'ai jamais regretté de demander conseil ni d'appeler quelqu'un. Souvent tu crois qu'ils sont chelous, c'est juste ça capte pas très bien. La même histoire à plein de version. La meilleure façon de sortir d'une embrouille, c'est poser des questions. Arrête de passer ta vie à fuir, angoissé par l'avenir, parce qu'il n'y a rien à faire pour se préparer au pire. Comme les attentats, les mauvaises nouvelles frappent quand t'y attends pas. Des proches un peu pressés partiront avant toi. Tu verras des gens heureux prendre un appel. Leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil. Y a rien à faire à part être présent. Penser les plaies, changer les pansements. Le seul remède, c'est le temps.
Et nous revoilà vite fait en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5, juste pour vous rappeler les petites modalités de fin. Car nous n'avons plus le temps pour l'agenda. Et donc, pour rappel, cette émission sera en rediffusion demain matin de 6h à 7h. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes dans quelques instants. Donc, le site www.radiocampustour.com, le Facebook, pour rappel, un concours est en cours sur le Facebook et l'Instagram de la radio. 18h, il y aura le flash RFI et 18h15, ce sera le Ghetto Blaster. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à demain. On va se laisser avec Roméo Elvis, Le Motel, Lompal et Thalys. Hey.
Ok ok futur branche Benoît. Les salles se remplissent et les morceaux tournent comme Benoît. Nouvel automne on s'en sort malgré toutes vos preuves. La famille c'est la famille, on mélange les anciens et les nouveaux refs. Quelques points communs on se connecte. Quelques mois plus tard on se connaît. Très très squat c'est ça qu'on est car c'est dur de pouvoir tenir tout seul comme des saints siliconés. On vaut mieux que ça, on est mieux conçu. Mieux que ceux qui se divisent, on roule ensemble comme un gang de motards. Vous êtes dans un camion cassé en mer. Sur ma moto rail, du moto raid dans les oreilles. Ah, je suis un meneur, je ne subis que mon alcoolémie. Bientôt je parle comme l'ennemi. Une journée d'automne à Paris, Elvis m'a encore planté. Un peu trop amoureux de sa copine, ce petit s'est encore planqué. Sors de ta cachette, allez rejoins-moi, je te paye un coup. D'accord, on s'était promis de ne pas boire, mais c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Une journée d'automne à Paris, un passage en Île-de-France. Bruxelles arrive dans la tracklist et mon oreille pisse le sang. J'y vais pour dire bonjour à la famille. Léo sur la piste de danse, la ville de ma petite amie. Je la connais petit à petit. Mon amitié se base autour de la musique. Je passe de ville en ville avec ma musique. Mon amitié se base autour de la musique. Je passe de ville en ville avec ma musique. A l'heure des biberons, je rêvais déjà de la tournée. Comme le réalisateur avec sa scène, sauf que moi je voulais monter dessus. Je connaissais pas encore la Saba, mais la Sassem. Juste quelques freestyles, place flagée. Juste quelques techniques en plus, j'ai le style de personne. Gilles Peterson, juste efficace, Régis la Palette. Une journée d'automne à Paris, j'ai quand même pris quelques gousses avec. Disons que je préfère ceux qui poussent en Belgique, je suis à l'aise. Je suis comme les couilles à l'air, les gens passent et ne regardent pas, c'est comme BXL. J'y étais tout à l'heure, Easy Thalys, Paris-Bruxelles, je trouve mini tarif pour faire retour à l'aise. Une journée d'automne à Paris, Elvis m'a encore planté. Un peu trop amoureux de sa copine, ce petit s'est encore planqué. Sors de ta cachette, allez rejoins-moi, je te paye un coup. D'accord, on s'était promis de ne pas boire, mais c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Une journée d'automne à Paris, un passage en Île-de-France. Bruxelles arrive dans la tracklist et mon oreille pisse le sang. J'y vais pour dire bonjour à la famille. Léo sur la piste de danse, la ville de ma petite amie. Je la connais petit à petit. Petit à petit, Bruxelles arrive dans la tracklist. Petit à petit.
Radio Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.